Ah bah tiens, c'est encore un hors-série.
Bah oui, c'est encore un hors-série, oui. Parce que si tu te souviens bien, Isabelle est en train de suivre toute une formation pour améliorer le podcast L'entrée des coulisses.
Ah ouais, donc du coup elle fait des hors-séries quoi.
Oui, du coup elle fait des hors-séries, mais bientôt, à la rentrée, il y aura des nouveaux épisodes inédits. Mais si t'écoutes un petit peu plus loin, elle va tout expliquer.
Ok, donc c'est du recyclage quoi.
Oui, c'est vrai, oui, on peut dire ça comme ça. Mais c'est intéressant aussi de revenir sur ce qu'ont raconté les invités, parce que tout le monde ne s'en souvient pas. Et puis, ils ont dit des choses intéressantes, et ça vaut le coup de revenir dessus. Voilà.
Ah ouais, ok, bon bah ok. Allez, Zou, en coulisses. C'est comme ça qu'elle dit, non? Et elle va continuer à le dire dans la nouvelle version. Allez, Zou, en coulisses.
C'est lourd de faire joujou avec le son comme ça. Allez, hop, Zou, on commence l'épisode. Un instituteur, une costumière, un analyste, une professeure et un avocat. C'étaient les métiers exercés par les invités déjà passés au micro de l'entrée des coulisses. Je vous retrouve donc pour un numéro hors série Regard dans le rétro pour explorer les ex-métiers des invités. Ils vont vous raconter comment ils ont basculé vers la vie d'artiste et vous allez l'entendre, certaines d'entre eux, d'entre elles, exerçaient des métiers très différents, loin de la scène et loin des projecteurs. Bonne écoute! Je vous propose de débuter par Tomislav Matozin. Tomislav est musicien, chanteur et il est actuellement à l'affiche de la tournée Goldman. Tomislav, je le connais depuis très très longtemps. On ne peut pas dire que ce soit un ami, mais c'est quelqu'un avec qui j'ai des contacts réguliers et que je suis particulièrement parce que sa carrière évolue d'une manière très très jolie, je trouve. Mais avant de faire partie de la tournée Goldman ou de plusieurs autres très beaux spectacles, Tomislav a exercé un tout autre métier. Je vous laisse écouter. Alors, je sais qu'avant d'être musicien, tu avais une autre vie. Quel métier exerçais-tu, Tomislav?
Avant d'être musicien, j'étais instituteur. Je faisais de la musique depuis un moment. Et j'aimais bien, enfin, je cherchais un métier qui, à la fois, me laisse des plages de temps suffisamment longues pour pouvoir tourner, parce que je tournais pas mal. Donc, c'est vrai que les vacances, c'était une période propice à ce que je passe sur la route. Et j'aimais bien, dans l'idée d'enseigner, enfin, d'être instituteur et pas prof de collège, par exemple, j'aimais bien l'idée de transmettre dans des domaines différents, aussi bien les langues que les sciences, l'histoire. Et voilà, j'ai fait ça pendant 10 ans. Jusqu'à ce que, en fait, le métier de musicien me prenne de plus en plus de temps et que je parvienne pas à mener les deux activités de front. Et du coup, j'ai pu faire la bascule. Et voilà. Mais je garde vraiment des souvenirs, de super souvenirs de cette époque de ma vie.
Et quelle trace tu gardes dans ta vie de musicien d'aujourd'hui? Quelle trace tu gardes de ta vie d'instituteur?
Actuellement, je joue, j'ai créé et j'interprète un spectacle qui est tout public, qui est pour un public familial, et on fait aussi des représentations scolaires. Donc, je me retrouve dans cette situation où on transmet quelque chose à un jeune public. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose que je retrouve aujourd'hui et avec beaucoup de plaisir. C'est-à-dire l'idée de laisser quelque chose au-delà de soi-même, en fait, mais d'être un passeur de quelque chose de bien plus grand que toi. Et je le notamment quand j'enseignais l'histoire, quand j'étais instit, je retrouvais ça, ou les textes en littérature, et je retrouve vraiment cette sensation quand on, notamment après une représentation, quand on fait un dans scène et quand on discute un peu avec un jeune public, avec des classes, et qu'on répond aux questions, et je me retrouve dans cette situation-là de nouveau un peu, et c'est très plaisant. Donc, oui, l'idée de transmettre. C'est quelque chose qui me... J'ai des enfants maintenant, je n'avais pas à l'époque. Oui, c'est quelque chose qui fait partie de mes préoccupations actuellement.
Alors, raconte-nous un petit peu comment on passe d'une vie d'instituteur à une vie de musicien professionnel. Comment ça se passe?
j'avais noyé mon temps de travail parce que dans l'éducation nationale, j'avais cette possibilité qui était quand même très chouette. C'est-à-dire que à partir du moment où les tournées ont commencé à prendre de plus en plus de place, j'ai commencé à travailler à mi-temps. Et quand j'ai constaté que j'arrivais le lundi matin à 8h30 alors que j'étais rentré à 3h du matin de tournée, je me suis dit, ah non, là, je peux pas prendre en charge un groupe d'enfants dans cet état-là, c'est pas sain, c'est pas bien. Et voilà, quand j'ai fait ce constat-là, je me suis dit que il était temps de courir ce risque qui était relativement maîtrisé. Et je me suis mis en disponibilité, donc c'est-à-dire j'arrête de travailler complètement et pendant un an, et à chaque fois c'était je pouvais le renouveler, donc j'ai fait ça pendant 3 ans, et durant ces 3 ans je suis devenu intermittent. Depuis j'ai le choix de rester, donc c'est une grande chance. Et alors il y a un petit phénomène quand on a l'éducation nationale, c'est que on peut pas, au-delà d'un certain temps, on peut pas être à la fois intermittent et à la fois en disponibilité, il faut choisir. Donc j'ai démissionné de l'éducation nationale, je sais pas si c'est très courant, parce que j'ai été convoqué à un entretien. On m'a demandé pourquoi on s'inquiétait en fait de ma situation, parce que mais j'ai une personne très très gentille en face, hein, qui m'a dit mais vous avez la sécurité de l'emploi, et là vous allez qu'est-ce que vous allez faire, est-ce que c'est vous avez un projet sérieux, etc. Et donc j'ai expliqué que j'étais musicien, c'était pas c'était peut-être pas le plus sérieux ça. Mais bon, j'ai eu la chance de tomber sur quelqu'un qui était assez comme ça curieux de spectacles et autres. Donc on a pu discuter un peu de chansons, de spectacles. Il connaissait un certain nombre d'artistes qui sont pas tellement connus du grand public. Et voilà, du coup il a compris, d'après ce que je lui ai expliqué, que c'était pas un coup de tête. Et du coup il a validé ma démission, parce que c'est quelque chose qui se valide. On peut la refuser. Donc voilà, c'était concrètement c'est comme ça que ça s'est passé.
Magali Gaudin, c'est mon amie depuis plus de 25 ans. Oui, je crois que ça fait au moins 25 ans. Magali fait partie de la troupe de théâtre La Danse des mots, la troupe que je dirige, et ici, elle va vous raconter sa première expérience en tant que costumière. Et au-delà de ça, elle va aussi vous parler de la vie des coulisses d'un théâtre. Et puis elle va donner aussi quelques petits détails plutôt intéressants, moi j'ai trouvé, sur les costumes d'époque. Et au final, il y a une casquette de toi que l'on connaît beaucoup moins bien. C'est une casquette de costumière. Pour voir un petit peu brièvement ton parcours et comprendre comment tu en es arrivé à toutes ces compétences de costumière, tu as fait d'abord des études d'art du spectacle, si je ne me trompe pas.
Oui, c'est ça. J'étais à la fac, donc j'étais à Nanterre et j'ai fait... le théâtre faisait déjà partie de ma vie. Hein. Je faisais déjà du théâtre depuis l'âge de 13 ans. C'était déjà un univers dans lequel j'adorais évoluer et dans lequel j'aimais me promener, y compris dans la partie coulisses. Et donc, j'ai fait des études en théâtre et cinéma. Et j'ai eu une maîtrise en théâtre. Et ensuite, j'ai dû travailler, hein, comme beaucoup. Et j'ai repris une formation de costumière à mi-temps avec mon travail que je menais par ailleurs.
D'où t'es venue cette envie, en fait, de t'intéresser aux costumes et carrément de prendre les fils et les aiguilles?
Alors, au tout départ, ça remonte très loin, en fait. Au départ, c'est le dessin, c'est les robes. Enfin, parce qu'à l'époque, c'était les robes plus les femmes que les messieurs que j'envisageais. Ouais. Donc ça, j'ai toujours adoré. D'aussi loin que je me souvienne, je crois que je devais avoir 6 ans, je créais déjà des mini défilés sur papier, voilà, où je dessinais des robes, donc c'était déjà un rêve vraiment d'enfant. Et puis à 13 ans, comme je t'ai dit, j'ai commencé le théâtre, donc au lycée. J'ai intégré une troupe de théâtre là où je me suis mise à jouer, et je crois qu'en fait les choses se sont faites très naturellement, c'est-à-dire que j'aimais dessiner, j'aimais créer sur papier, et puis c'est vrai qu'à ce moment-là, j'avais peut-être pas encore envisagé de toucher au fil et aux aiguilles, mais en tout cas d'imaginer des choses, d'imaginer des tenues, d'imaginer... Et après, l'amour du théâtre augmentant au fur et à mesure des années, et voilà, et mon expérience aussi un petit peu moi sur scène faisait que les deux se sont se sont rapprochés, en fait, ont commencé à se mouvoir dans une même dynamique. Et la première fois que j'ai joué au théâtre, donc à la fin de cette année de lycée, hein, puisque c'était un projet fait avec un professeur de sciences naturelles. Mmh. Et donc, je jouais au théâtre de Cachan et je me souviens, je suis arrivée. Il n'y avait personne encore qui était là. On était à 5 heures de la représentation et je suis rentrée dans le théâtre qui était vide, du coup. Et je crois que j'ai adoré ce moment. Mmh. Et je me suis rendu compte qu'au final, je prends énormément de plaisir à être sur scène, mais je crois que j'ai au moins autant de plaisir à déambuler dans le théâtre alors que voilà, il s'active d'autres activités, donc tout ce qui se fait en amont, ou même simplement des fois en étant seul et avec ce silence qu'il y a qui résonne malgré tout dans le théâtre quand mmh. on est voilà, tout seul. Et ça, j'ai trouvé ça assez dingue en fait. Et mmh. Et ce côté coulisses,
oui,
je te dis que toi dans tous ces petits travaux qui se font en amont.
Oui.
Et qui parfois sont dans l'effervescence, et je trouve ça assez génial. Ou dans ce silence qu'il y a quand on est seul dans un théâtre, et ce qui m'est arrivé, hein, à l'époque, je faisais aussi, quand j'étais étudiante costumière, je faisais aussi des costumes déjà pour le théâtre, donc c'était tard le soir, donc j'étais seule dans le théâtre, on n'entendait que la machine, ou bien j'étais seule et je faisais de la couture à la main. Ça aussi, c'est assez magique, en fait. Mmh. Et je crois que pour moi, c'était juste une façon très complète d'investir ce lieu qu'est un théâtre en étant à la fois au four et au moulin, on va dire,
oui.
Avec des énergies très différentes, des plaisirs très différents, des stress très différents. Mmh. Voilà. Donc, je ne me suis pas dit... je sais pas, c'est quelque chose de très naturel, qui s'est fait très naturellement et je ne l'ai pas réfléchi, en fait.
Mmh.
La magie du théâtre, quand on a envie de créer aussi, c'est tout ce qu'on peut s'accorder. C'est-à-dire que l'idée, c'est de ne pas se mettre de limites. Je me souviens que c'était ce que nous disait ma prof de costume quand mmh. on démarrait un projet. Elle nous disait, pour l'instant, ne vous donnez aucune limite. Mmh. Les limites arriveront d'elles-mêmes, mais pour l'instant, ne vous donnez aucune limite. Rêvez, imaginez. Mmh. Voilà. Et donc, on peut faire sortir des choses incroyables. Qui sont dans que ce soit dans les accessoires, les ustensiles, enfin voilà, pour moi ça fait partie du rêve au théâtre, quoi.
Où est-ce que tu as fait ta formation de costumière?
Dans une école qui s'appelait LATEC, c'est une association, puisque j'étais déjà, on va dire, adulte, hein, puisque j'avais déjà eu ma maîtrise et puis j'avais repris le travail. Du coup, je pouvais pas me permettre financièrement de reprendre 4 ans d'études dans des écoles qui étaient chères en plus. Mmh. Donc j'ai fait ça dans une école association donc qui s'appelait LATEC, qui n'existe plus aujourd'hui, qui était rue Didot, et qui me permettait donc d'avoir les cours le matin et l'après-midi je travaillais donc et le soir je faisais les costumes pour une pièce que je jouais au théâtre de Cachan. Oui, alors en fait j'ai fait cette école, j'ai fait cette formation. Sans vouloir forcément en faire un métier, sans me dire, parce que le statut d'intermittent, bon, c'était un peu compliqué, je le savais. Je suis pas quelqu'un qui sait particulièrement me vendre. Enfin, voilà, je l'ai pas fait forcément dans cette optique-là. Je l'ai fait parce que c'était un projet qui me tenait énormément à cœur et que j'avais envie d'aller au bout de ça. Donc, je me suis lancée un peu dans cette aventure. Après, c'est vrai qu'on sort de l'école. Moi, personnellement, j'étais pas non plus extrêmement à l'aise au départ pour aller chercher des contrats, il fallait que je travaille aussi et tu as beaucoup de stages non rémunérés. Donc voilà, sauf si tu as éventuellement les moyens et puis une certaine confiance en toi pour démarrer tout de suite, c'est quand même pas évident. Mmh. Et donc je me suis retrouvée à la fin de cette formation, pas prête, je pense, ni dans ma tête à me lancer, à me jeter dans le grand bain. Et puis, je dis financièrement, il fallait quand même que moi j'assure mes arrières, et ce qui n'était pas évident. Donc, j'ai pris des commandes. Donc, j'ai travaillé un petit peu pour des théâtres comme ça, à droite, à gauche, mais sans même pas forcément dans l'optique d'obtenir mes heures, etc. Mm-hmm. Parce que je te dis, j'étais pas dans cette configuration-là d'être intermittente du spectacle. Mm. Mais j'ai fait des commandes, voilà. Et les premières commandes que j'ai eues, au départ, ce sont des amis d'amis, pour des mariages. Alors, au départ, c'est parce qu'on va au mariage. Et puis après, voilà. Et ça a été du bouche à oreille. Et effectivement, de fil en aiguille, je ne sais pas trop comment ça s'est fait, mais ça s'est fait. Des personnes qui voulaient des robes, mais des robes un peu particulières, on va dire, pour des thématiques précises. Voilà, ça tenait plus du costume que de la robe de mariée. On a commencé à faire appel à moi, puis des professionnels. Je sais même plus comment ils ont entendu parler de moi à l'époque. C'était la grande mode des wedding planners.
Oui.
Donc, il y a des personnes qui organisent les mariages clés en main. Et donc, j'ai des jeunes femmes là, qui faisaient ça, qui m'ont contactée. Donc là, vraiment par voie professionnelle. Et j'ai commencé à avoir des clientes, effectivement, complètement détachées de mon milieu amical. Et moi, la corsetterie, c'est simplement parce que j'adore ça. Et que, bon, les robes de mariée, c'était une chose. Mais moi, pour mon plaisir, c'est quelque chose que j'aime énormément. C'est à la fois ancien et moderne. C'est-à-dire que je l'ai appris. J'ai appris la corsetterie. À l'école de costume, vraiment dans ses, comment dire, dans son histoire, 17e, 18e, enfin voilà, vraiment à l'ancienne. Et en même temps, on peut le mettre au goût du jour, il y a des choses extrêmement modernes. Donc, j'aime un petit peu ce côté intemporel. Et puis, pour des raisons purement pratiques, c'est-à-dire que, bon, quand j'avais des robes de mariée à faire, je les faisais bien évidemment, mais pour moi, et sachant que j'ai un atelier à l'espace limité, faire des choses avec des traînes et 15 mètres de tissu, c'était pas toujours évident.
Ouais,
fallait. Et donc, la corsetterie, bah, c'est des petits gabarits, en fait. C'est des petites dimensions. Donc, ça me permettait de travailler en étant quand même confortable, on va dire, à l'aise. Voilà. Donc, ça mariait plein de choses positives pour moi, hein. c'est pas pour ça que je l'ai choisi, mais en tout cas c'était aussi un atout, on va dire. Et donc oui, je me suis spécialisée en corsetterie, donc j'avais une base apprise, et puis après moi j'ai travaillé par moi-même en autodidacte, voilà, et en expérimentant des choses, et c'est quelque chose que j'aime beaucoup parce que c'est des gestes effectivement très techniques. Et puis après, il y a la partie broderie que moi, j'adore. Ça permet vraiment de travailler dans la minutie. C'est aussi ça qui peut-être a fait que je ne suis pas forcément allée dans le théâtre. C'est que j'ai adoré, parce que comme je te disais tout à l'heure, ça permet plein de choses. Oui. On peut se permettre plein de folies. Mais le théâtre, c'est fait pour être vu de loin.
Oui.
Et que moi, j'aime beaucoup le travail en fait, d'aiguilles très précis, très, très fin. Et voilà. Et j'avais cette espèce aussi de contradiction entre des choses que je voulais faire et me permettre un peu toutes les libertés. Et en même temps, cette minutie qui n'est pas forcément utile, on va dire, au théâtre et qui même... par moment peut la desservir parce qu'effectivement il faut faire des choses un peu plus grossières pour être vu de loin, enfin voilà. Ce que j'ai aimé dans les commandes que j'ai eues, c'est que j'ai vraiment fourni tout le service du début jusqu'à la fin, jusqu'à l'habillage, et ça c'était génial en fait. Il y avait vraiment le processus créatif complet.
Appelez-moi François, alias Romain Lefrançois. C'est un artiste que j'ai côtoyé lorsque je faisais partie de l'association Musique 94, l'association tête de réseau des musiques actuelles du Val-de-Marne, une association qui malheureusement n'existe plus. Mais nous avons fait une interview lors de la première année du podcast, et je lui avais demandé, au cours de cette interview, de raconter son parcours professionnel avant qu'il devienne artiste. Et ça a été l'occasion de parler de la question « se sentir artiste ou pas ?». Je vous laisse écouter.
En fait, avant de me lancer à corps et âme dans la musique, j'ai fait des études, ça marchait plutôt bien, et j'avais peut-être peur je ne savais pas que je voulais me lancer dans la musique, je pense. Et puis on m'a dit, bon bah voilà, va au bout de tes capacités. Donc j'ai fait une école de commerce, j'ai travaillé quelques années, 2-3 ans, j'ai fait mes stages dans des grosses boîtes, donc j'ai vu le que je ne voulais pas faire, et j'aurais pu vraiment rester dans ce moule là mais je m'y sentais pas à ma place. Enfin, j'aurais pu être à ma place, mais au fond de moi-même, je savais que j'étais en train de me trahir. Donc très tôt, alors que tous mes camarades, tout mon entourage était parti dans cette voie-là, j'ai pris le chemin artistique, quoi. Bon, après, comme j'avais le fait d'avoir fait ces études-là, ça m'a permis quand même, je m'en rends compte maintenant, de savoir poser les données, d'analyser, de dire voilà, j'ai un projet, c'est quoi mon objectif, je veux veux aller là et comment je peux faire et du coup de pas avoir peur du travail que ça représente quoi, de, d'y aller, me plonger dans l'inconnu en me disant bon allez t'es pas plus bête qu'un autre, vas-y quoi.
Alors du coup d'où est venu le déclic?
Ça a été assez progressif, mais d'abord j'ai toujours été en fait à la rigueur dans les études que j'ai faites, je suis allé plutôt dans, du côté marketing parce que ce qui m'intéressait c'était éventuellement je me rêvais de travailler avec des agences de créa, de publicité, parce que finalement c'était quand même ma fibre artistique qui voulait s'exprimer. Et puis au bout d'un moment en fait et puis enfin une fin de stage on m'a dit ah t'es très bon, t'es super créatif, mais t'es pas très bon en analyse, il faudrait que tu développes ce truc là. Et comme moi, je suis assez j'aime bien les challenges, je me dis bon, ok, bah, je vais prendre un premier boulot en analyse de données de marché. Et donc, je faisais des études de marché, j'avais des clients dans le papier toilette, dans les bonbons, dans le pâté, dans les pneus. Dans... Et j'analysais les chiffres, j'analysais tout ça. J'étais devenu assez bon là-dedans parce que j'avais trouvé ma façon de faire créative en fait dans mon rendu. Mais à côté de ça, en fait, je continuais d'écrire des chansons sur ma vie, sur d'autres choses, des émotions. À partir du moment où je me suis dit, dès que je vais dans le métro, dès que je rentre chez moi, ou même au boulot, je commençais à continuer à réécrire des chansons, à penser qu'à ça. Un été, après, en retour des vacances, je discutais avec un copain, il m'a dit, mais vas-y, lance-toi. Et ça a été un peu ce déclic-là, je m'en souviens, c'était dans un train, entre Belle-Île et Paris. Et je me suis dit, ok, je plaque tout et j'y vais parce que, sinon, dans 10 ans, j'y suis encore et je vais regretter. Je vais regretter de ne pas avoir essayé de vivre ma vie.
Et là, tu regrettes pas, du coup?
Et là, je regrette pas. Je sais exactement tous les sacrifices que ça a demandé. Mais je vois surtout qu'en fait, par rapport à ce que je voulais faire, je suis dans mes pompes, en fait. Je suis pas à côté de mes pompes. Et mine de rien, 10 ans plus tard, c'est un peu triste, mais j'ai vu des copains se sentir être passés à côté de quelque chose. Alors ils changent maintenant, mais le plus beau compliment qu'on m'ait fait, c'est une amie qui m'a dit, mais t'as eu raison de vivre ce que tu voulais faire, ton rêve depuis le départ, quoi. Mmh. Voilà. Et c'est vrai que c'est une chance parce que j'ai su ce que je voulais faire. Je pense que c'est un grand malheur de ne pas savoir ce qu'on veut faire.
Donc, tu t'es toujours senti artiste, en fait?
Je crois que j'ai compris qu'il y a... Alors, on a tous une fibre artistique de créateur en nous. Et pour le coup, j'en suis vraiment persuadé. Ce n'est pas du tout un prêt-à-penser en disant ça, parce qu'à côté de ça, j'ai fait beaucoup d'ateliers avec des publics très divers, que ce soit des enfants. Donc, les enfants ont un potentiel créatif très développé. Enfin, ça paraît, tout le monde est assez clair là-dessus. Mais aussi avec des adultes qui ont eu des vies très difficiles. J'ai fait des ateliers en prison, en maison d'arrêt, de nombreuses fois. Et je m'aperçois qu'en fait, ils ont tous un potentiel poétique, créatif, des idées, et ils ne le savent pas forcément eux-mêmes. Mais la grande différence, c'est que se sentir artiste est quelque chose qu'on arrive à sentir plus ou moins tôt dans une vie. Et moi, je pense que je l'ai toujours senti. Et ça, je pense que c'est une chance parce que du coup, c'est pas, je voulais pas devenir artiste. Je pense qu'artiste, c'est pas un statut social, on s'en fout de l'artiste. C'est juste une sorte de vision qu'on a ou de capacité à avoir, de garder les yeux ouverts et à s'émerveiller de ce qui nous entoure, des rencontres qu'on fait et qu'on veut ensuite le traduire avec un matériau, que ce soit l'écriture, la culture, le dessin. Mais c'est cette et ça c'est une fibre en fait. Et c'est en soi, c'est en soi. Et on l'a tous, mais plus ou moins développé, plus ou moins inhibé, je pense. Mmh. En fonction des contextes familiaux, sociaux, historiques, géographiques, voilà.
Si je vous dis Marion Lorgnet, Vous connaissez. Vous la connaissez si vous écoutez les épisodes de l'entrée des coulisses. C'est elle, Marion Lorgnet, qui vous propose la rubrique Tout ou presque, la rubrique historique ou pédagogique pour connaître les aspects méconnus du monde du théâtre. Et vous allez entendre que Marion a suivi un chemin professionnel assez cohérent au final.
Alors d'abord, il faut savoir qu'en plus d'être passionnée de théâtre, je suis passionnée d'histoire et surtout de la petite histoire dans la grande histoire. Donc moi, ça m'intéresse dans ma pratique théâtrale déjà de savoir tous ces coulisses. Voilà, j'enseigne aussi beaucoup aux enfants le théâtre et c'est vrai que je mets un point d'honneur à faire un peu cette culture théâtrale pour leur donner via ces petits secrets d'histoire l'envie d'aller vers le théâtre, donc on découvre pourquoi on frappe trois coups, voilà, tout ce genre de choses dont les enfants, ils adorent, et les adultes aussi, en vérité, on adore tout savoir.
Est-ce que c'est aussi parce que ça vient d'un goût aussi personnel pour l'histoire, par exemple ?
Oui, moi je suis passionnée d'histoire, j'ai à la base une formation d'histoire, parce que j'ai un master d'histoire, j'ai enseigné dans l'éducation nationale l'histoire à travers ma formation professionnelle, et j'ai toujours ce goût très prononcé. Donc c'est vrai, et puis je suis une grande lectrice, une très très grande lectrice,
ouais.
Donc du coup dès qu'on lit, dès qu'on découvre des romans, on apprend plein de petites choses et on a envie de savoir encore plus. D'abord, je faisais du théâtre en amateur, voilà, dans une compagnie. Donc, j'ai commencé chez les enfants, puis je suis allée au cours ado, puis au cours adulte. Et puis, le responsable de cette compagnie, donc de la compagnie de la Dandinière, m'a dit un jour, mais pourquoi tu m'assisterais pas sur le groupe que je donne avec les ados pour, découvrir un petit peu ce que c'est que la mise en scène et ce que c'est que gérer un groupe. Donc, je l'ai assisté pendant un an. Oui. Voilà, j'étais encore mineure à l'époque. Donc, ma maman m'emmenait, etc., tout en continuant à jouer sur scène, le petit spectacle à la fin de l'année, voilà. Et puis, l'année suivante, il m'a dit, est-ce que tu veux qu'on te confie un cours enfant ? Donc, j'ai animé tout de suite un cours enfant. Dans la compagnie où on est, on doit produire un spectacle en fin d'année qu'on joue deux ou trois fois. Donc, il a fallu très vite que je mette dans le bain. Et puis, au fur et à mesure, ça a été un cours enfant, deux cours enfants, trois cours enfants. Des cours ados, une envie de plus en plus faire des mises en scène longues, d'aller dans des sujets qui me passionnent. J'ai eu la chance d'avoir toujours des groupes qui m'ont suivi dans tout ce que j'avais envie de monter. J'ai monté avec des ados une pièce sur le frère de Göring, d'Hermann Göring.
D'accord,
qui est
Albert
Göring, qui est résistant à la différence de son frère. Ils m'ont suivi dans le projet. Mmh. Et puis un jour, en 2019, j'ai eu envie de quitter l'éducation nationale pour tout un tas de raisons. Je ne me retrouvais plus dans le métier.
D'accord, ok. Donc, ça veut dire que quand tu as commencé à donner tes cours, donc tu disais que tu étais mineure au départ, donc tu as fait cohabiter ça avec tes études, je suppose.
Oui. Donc, j'avais mon bac. Ouais. Ensuite, je suis allée à la fac et je me libérais le mercredi pour pas avoir
D'accord.
cours. Et du coup, je donnais mes cours le mercredi.
D'accord. Et donc, tout en étant instite, tu donnais déjà des cours de théâtre, c'est ça. Donc,
c'est ça.
Donc, en fait, faire cohabiter comme ça différentes activités, ça fait longtemps que tu le fais, tu es habituée.
Oui, voilà, je l'ai fait pendant une dizaine d'années, pendant mes études et puis après quand j'étais en poste, où j'avais toujours le mercredi des ateliers théâtre. J'étais pas à 100% à l'éducation nationale, donc j'avais aussi des ateliers parfois le soir. Et puis en 2019, j'ai quitté l'enseignement définitivement et je me suis dit, enseigner le théâtre, c'est ce que j'ai envie de faire, c'est ce qui me passionne.
D'accord.
Sous quelle forme ?
Ouais.
Parce qu'il y a un milliard de formes.
Oui.
Moi, je ne souhaitais pas devenir comédienne professionnelle.
Mm-hmm.
Ce n'est pas quelque chose qui me fait vibrer. Moi, ce qui me fait vibrer, c'est vraiment la direction d'acteur et la mise en scène.
D'accord.
Et j'ai choisi de créer une petite société pour pouvoir animer dans différentes compagnies, dans différentes écoles et dans différents musées. Des ateliers théâtre.
D'accord, donc c'était une sorte de reconversion, on va dire, de prof. Tu enseignais l'histoire, c'est ça ? Tu disais.
Oui, l'histoire et le français.
Histoire et français, d'accord. Enfin, ça restait toujours de l'enseignement, mais ce n'était pas la même matière.
C'est ça. Mais comme j'avais ces cours de théâtre en parallèle, en vérité, j'ai commencé mon métier dès le début.
Oui.
Je pense que c'est juste que peut-être il y avait un petit souci de légitimité, de syndrome de l'imposteur, c'est un petit peu à la mode ce mot,
ouais.
Mais où je me disais, c'est quand même une vie très particulière de vivre de théâtre, de vivre de l'art, c'est quelque chose qui n'est pas forcément dans la sécurité,
ouais.
et totalement pas dans la sécurité du poste de fonctionnaire dans lequel j'avais commencé à tracer ma voie. Donc, je pense que voilà, cette envie, elle a toujours été là. Mmh. Et effectivement, c'est toujours de l'enseignement.
Oui. Mais du coup, comment ça s'est fait cette transition alors ? Parce que tu as effectivement une structure qui s'appelle Théâtre en mille et un lieux. Comment s'est fait l'articulation entre « je suis encore en poste, je suis prof voilà, » et tout d'un coup, je lâche tout ça et je suis à la tête de ma structure ?
Alors, c'est une combinaison de plusieurs choses. Déjà, j'avais de plus en plus de cours de théâtre.
Oui.
J'avais une volonté d'aller encore plus loin dans des projets, avec des projets plus ambitieux au théâtre. J'avais aussi très envie de mettre en scène un groupe adulte. Mm. Parce que j'adore travailler avec les enfants, mais il y a dans la mise en scène et dans ce qu'on peut leur demander des limites.
Oui.
Parce que bah voilà, pour eux, il faut que ça reste vraiment un loisir, etc. Et avec les adultes, on peut peut-être aller un petit peu plus loin. Et j'avais pas assez de temps.
Oui.
Finalement, il y a aussi le fait que bah voilà, dans l'enseignement, je m'y retrouvais plus du tout. Mm. Et vraiment, je me suis vraiment posée au mois de juin en me disant, je n'y retournerai pas. J'ai suffisamment de cours pour m'assurer un reste à vie, parce que bon, il faut quand même vivre.
Bien sûr.
Donc, j'ai suffisamment de cours pour démarrer et pouvoir au moins pendant un an me lancer comme ça. Très vite est arrivé le Covid, donc les ateliers ont été mis un petit peu en stand-by, même si moi, j'ai eu la chance que tous mes élèves me suivent sur les cours en visio.
Ah, c'est cool, ça.
J'ai vraiment eu cette chance. Alors, un peu moins de mars à juin 2020, évidemment, on n'a rien présenté comme spectacle. Mm. Mais en 2021, on s'est vu en vision, on s'est organisé pour pouvoir quand même en juin 2021 présenter quelque chose. J'ai eu beaucoup de chance. Et cette période de Covid m'a permis de me dire, j'adore l'histoire, je veux enseigner le théâtre, il faut que je crée mes ateliers théâtrales thématisés pour les écoles. Et donc, j'ai créé des ateliers sur François Ier, sur Napoléon, sur des périodes historiques que je peux aller jouer voilà, dans des écoles, etc.
Okay.
Donc, le Covid a été un peu bénéfique quand même.
Oui, finalement, ça a été source de créativité.
Oui.
Pour conclure cet épisode hors-série Regard dans le rétro sur les ex-métiers des invités du podcast, je vous propose d'écouter Rom Tom, musicien et chanteur. À la question que je lui avais posée à l'époque lors de son interview « Que faisais-tu avant d'être musicien ?», Rom Tom m'a donné une réponse un peu étonnante au départ, mais qui a permis de réfléchir à la question « C'est quoi être musicien ?». Et bien sûr, il vous parle de son parcours avant de basculer vers un métier artistique. Et c'est surprenant.
Avant d'être musicien, j'étais dans le ventre de ma mère.
Alors, on va peut-être pas remonter aussi loin. Si tu veux bien avancer un petit peu dans la chronologie.
Non, c'est parce que... Je dis ça parce que qu'est-ce que ça veut dire qu'être musicien, finalement, en fait ? Je trouve que la question est intéressante. Moi, je suis assez souvent confronté à ça. C'est-à-dire que pendant des années, j'ai pas gagné un sou avec ma musique, mais je me considérais quand même comme étant musicien. Mais bon, la plupart des gens, à partir du moment où on n'est pas professionnel, on peut pas le dire. Pour moi, c'est pas vraiment ça être musicien. Donc, je disais, c'était une boutade. Je disais, qu'est-ce que je faisais avant ? J'étais dans le ventre de ma mère, parce que bon, pour moi, on est musicien à partir du moment où on commence à faire de la musique. Et commencer à faire de la musique, ça ne veut pas dire prendre des cours de musique. Ça veut dire chanter, ça veut dire taper sur un instrument à perfection, ça veut dire essayer de faire des notes sur le piano. À partir du moment où on est passionné par ça et qu'on a envie de faire quelque chose avec ça, je pense qu'on peut dire qu'on est musicien. Maintenant, je pense que la question s'adresse à... Enfin, la question veut plutôt dire... quand est-ce que j'ai décidé de faire de la musique ma vie ? Je pense que c'est plutôt ça la question.
Ouais.
Et qu'est-ce que je faisais avant ? Alors, avant de décider que ce soit mon activité principale, j'ai eu un parcours pas tout à fait classique, parce que j'ai fait des études de droit, hein, et je me suis pas contenté d'aller voir en droit ce qui se passait pour finalement me dire que ça ne me convenait pas, parce qu'en fait ça me convenait assez bien, les études de droit, j'ai beaucoup aimé les études de droit. Et comme je suis pas trop du genre à arrêter un truc avant de le terminer, bah je l'ai terminé avant de passer à autre chose, c'est-à-dire que j'ai été jusqu'à obtenir mon diplôme d'avocat. Et c'est à partir de là que j'ai décidé de faire la musique. Mais ça s'est pas fait comme ça, hein. Ça s'est pas fait en un claquement de doigts. Mais c'est après avoir obtenu mon diplôme d'avocat que disons en l'espace d'un an à peu près, je me suis considéré comme vraiment musicien.
T'étais dans un droit particulier ?
Alors, comme j'ai pas pratiqué le métier, c'est difficile de dire que j'étais spécialiste. Mais bon, parce que en vérité, la spécialité s'acquiert par la pratique surtout. Mais on peut quand même dire que j'avais quand même des spécialités dans mon apprentissage et dans ma formation à partir de la troisième année jusqu'à il y a 5 années de fac plus 1 an et demi d'école du barreau. J'ai quand même été beaucoup plus orienté sur le droit international. Je suis peut-être pas rentré dans les détails en milieu du truc, mais en gros, ce que je faisais, ma spécialité, ce qui a été l'objet de mon mémoire et ce que j'ai pratiqué un peu en stage, c'est ce qu'on appelle le droit international des investissements, l'arbitrage international, et c'est ce qui concerne les contrats et les conflits entre les États et les multinationales. C'est-à-dire, pour donner un exemple très rapide, admettons que je sois un État pas des plus développés, j'ai besoin de construire des autoroutes ou extraire du pétrole que j'ai sur mon sol, enfin sous plutôt, mais je n'ai malheureusement pas encore les compétences techniques pour le faire, alors je vais passer un contrat avec quelqu'un qui sait le faire. C'est une multinationale, en général, qui s'occupe de ça. Et donc, il y a un contrat qui régit ça. Il y a différents niveaux juridiques, internes, internationaux, tout ça. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais en gros, c'était un peu ça, ma spécialité, si on peut dire.
Donc, tu jouais déjà de la musique? Tu pratiquais déjà guitare
Oui, j'ai toujours fait de la musique, pour autant que je m'en rappelle. Maintenant, c'est pour ça d'ailleurs que tout à l'heure je disais qu'avant d'être musicien j'étais dans le ventre de ma mère, j'ai toujours fait de la musique, mais j'étais pas du genre très 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 assidu quand même, il faut bien le reconnaître. J'étais pas le gros bosseur, quoi. Je faisais ce qui me plaisait, et comme ça me plaisait, je me rappelle que quand j'ai commencé les cours à proprement parler par le piano, et je me rappelle que moi ce qui m'éclatait c'était de jouer les sonates de Mozart jazz. Alors j'appelais ça jazz, hein. C'était pauvre jazz, hein. Mais bon, ce que je veux dire c'est qu'au lieu de le jouer avec un rythme assez rigide qui est celui du classique, je le ternarisais, je le shabadaisais, si on peut dire. Voilà, et j'étais tout fier d'arriver et de montrer ça à ma prof de piano qui en retour me disait « c'est bien, mais c'est pas du tout comme ça qu'il faut faire ». Voilà, et moi ça m'allait pas trop ce genre de réponse. Bon, voilà, donc oui, j'ai toujours fait de la musique. Pendant toutes mes études de droit, on avait un pseudo-groupe, c'est pas vraiment un groupe, mais avec des potes, on se réunissait pour faire du jazz. Enfin, c'est comme ça qu'on disait, mais c'était vraiment, encore une fois, du pauvre jazz, mais on avait compris le principe d'improvisation des gammes, alors on s'entraînait à faire ça sur beaucoup du jazz manouche. C'était l'époque où le jazz manouche était très, très présent. Mais encore une fois, j'étais quand même un peu en branleur, il faut le dire, je travaillais pas, quoi. Enfin, à part les trucs que je voulais vraiment, vraiment faire. Il a fallu que je décide de faire ça de ma vie pour que ça change du tout au tout et que là, je me mette à travailler vraiment. Mmh. Voilà.
Tu viens d'une famille de musiciens, du coup? Parce que tu dis que tu as toujours fait de la musique, ça te vient comme ça, ou tu viens d'une famille de musiciens?
Alors, c'est un peu particulier. Je pense que je viens d'une famille de médecins. Mais mon père était clarinettiste dans l'orchestre de l'hôpital Saint-Antoine, l'orchestre jazz, le petit band, je ne sais plus comment il s'appelait d'ailleurs, petit orchestre jazz de l'hôpital Saint-Antoine. Donc oui, j'ai toujours été confronté à la musique. Mais mes parents étant médecins, je pense que inconsciemment, c'est probablement pour ça que j'ai fait droit, parce que inconsciemment je devais me dire que s'il fallait que je fasse, c'était médecine, architecture, droit, enfin que des métiers de cet ordre-là. J'ai jamais imaginé que je pouvais faire de la musique un métier, puisque mon père ne le faisait pas. Aussi bon musicien qu'il ait pu être, d'ailleurs. C'était un hobby pour lui. Et voilà. Du coup, oui, j'ai toujours été confronté à la musique, mais ça a toujours été présenté comme un hobby chez moi. Il a fallu que je rencontre d'autres gens et pour que je puisse l'envisager comme une profession, quoi.
Et justement, alors, du coup, c'est quoi le déclic? Qu'est-ce qui a fait que tout d'un coup tu as dit, là maintenant, je vais en faire mon métier, mon activité principale?
Le déclic, ça a été le fait de faire, je pense. En fait, la manière dont ça s'est passé, c'est que j'ai eu mon diplôme d'avocat. Et en sortant de l'école du barreau, j'avoue que j'ai une espèce d'angoisse à l'idée de trouver une collaboration, m'installer en cabinet. Ça m'a pas plu tellement. Mais je me suis dit, bon, c'est peut-être juste, c'est normal, hein, c'est la fin d'un chemin, c'est la fin des études, le début de la vie active. Donc, au début, je me suis dit, je vais me prendre quelques mois. J'avais eu mon diplôme en octobre, novembre. Je me suis dit, bon, j'ai bien mérité, ça fait quand même 7 ans d'études, j'ai bien mérité de me prendre un peu de temps, là. Je vais me prendre au moins jusqu'à la fin de l'année. Et parce que j'ai envie de faire de la musique, là, et que j'ai une configuration pour le faire. Enfin, donc j'ai envie de faire de la musique. Et après, ben, je pense que je prendrai un mi-temps pour pouvoir monter mon académie. Enfin, pas tout à fait, mais pour pouvoir donner des cours de capoeira, parce que je fais ça aussi. Et monter mon activité par rapport à ça. Et aussi avoir du temps, plus de temps pour faire de la musique pour mon plaisir, quoi. J'étais encore dans l'optique, la musique est un hobby, tout ça. Voilà. Et le fait est que, en fait, dans ces quelques mois, dans ces 3-4 mois qui ont suivi l'obtention de mon diplôme, j'ai enregistré des maquettes, donc j'ai créé, j'ai composé, j'étais à fond. Et ça ne me demandait pas le moindre effort d'être à fond, c'était une obsession, le truc, quoi. J'ai fait ces quelques maquettes et j'avais quand même la chance autour de moi de connaître 2-3 personnes qui sont dans l'industrie de la musique. À qui je pouvais peut-être pas demander des faveurs, mais en tout cas demander un avis. Et j'ai demandé, une fois que j'ai enregistré ces maquettes, j'ai demandé l'avis à ces personnes qui m'ont, ben, globalement à peu près tous dit la même chose, c'est-à-dire, ben, c'est bien, faut que t'en fasses plus, faut que tu continues, faut que t'ailles au bout du truc, en fait, voilà. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à envisager que je puisse faire ça, en fait. Et puis le fait de fréquenter aussi de plus en plus de musiciens professionnels, où tout d'un coup, c'était un style de vie qui existait, en fait, tout d'un coup.
Voilà, c'est terminé pour ce hors-série Regard dans le rétro. La suite des épisodes de l'entrée des coulisses va être très différente. Suite à ma formation avec Ico Factory, qui est toujours en cours au moment où j'enregistre ce hors-série, eh bien, beaucoup d'évolutions sont en préparation. Et dans mon chaudron, ça bouillonne. Alors, pour pouvoir faire ma tambouille et vous concocter un podcast aux petits oignons, je vais suspendre les diffusions d'épisodes. Oh non ! Oh non ! Oh non, 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 non ! Pour mieux revenir à la rentrée. Yeah. En septembre, avec un épisode qui mijote déjà pour vous emmener au cœur d'un festival pluridisciplinaire. En attendant, retrouvez-moi sur Instagram parce que là, je vais rester active. Je vais vous y proposer des extraits d'épisodes, des nouvelles, des évolutions du podcast, des ressources pour explorer les thématiques évoquées par les invités et vous partager des infos pour faire encore plus connaissance. Bref, il va se passer plein de choses sur ce compte Instagram. C'est là qu'il faut être. Le lien du compte Instagram, l'entrée des coulisses, et dans la description. Restez connectés, restez avec moi, et je vous dis à très très bientôt.